c'est Olivier et Laureline. Bienvenue sur Tabibito, notre podcast qui vous fait voyager au Japon. Ici, nous vous emmenons à la découverte du pays du soleil levant et de sa culture à travers nos expériences de voyage.
Tabibito, c'est aussi un podcast qui va à la rencontre de ceux qui y ont vécu ou qui s'y sont expatriés. Alors, partons maintenant ensemble à la découverte du pays du soleil levant. Salut Laureline.
Salut Olivier.
Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on a un épisode un peu spécial à vous proposer. Alors, si vous nous suivez sur Instagram, vous savez que j'étais à Londres en novembre dernier et que j'étais allée voir une exposition sur les Ainu et la culture Ainu. Et il se trouve qu'en fait, il y avait des équivalents en France qui sont passés en février. Donc du coup, on a pris contact et il se trouve qu'on a pu trouver un intervenant pour nous parler de la culture Ainu. Donc ça, c'est super chouette.
Donc on est vraiment super content. Donc c'est un épisode qu'on a enregistré à cheval entre l'Écosse, la France et le Japon. Et donc on a le plaisir d'accueillir Monsieur Abe qui va nous parler de la culture Ainu et accompagné par Soline qui s'est gentiment proposé de faire l'interprète et qui nous a été d'une grande aide sur l'épisode.
Alors du coup, pour commencer, Monsieur Abe, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeuristes pour qu'ils puissent savoir ce que vous faites en fait au niveau de la culture Ainu?
Alors, enchanté, je suis Takayuki Abe, je suis un employé de la ville de Biratori et également le secrétaire général de l'association Biratori Ainu qui s'efforce de faire connaître la culture Ainu au plus grand nombre.
Hajime Mashite, enchanté Monsieur Abe, très content de vous avoir avec nous. Est-ce que vous pouvez maintenant nous parler un petit peu de Nibutani et présenter la région aux auditeurs?
Alors, pour commencer, juste quelques mots sur la ville de Biratori, où se trouve Nibutani. Donc, c'est une ville qui est située à l'extrémité ouest de la région de Hitaka, Hokkaido. Et c'est une ville qui est vraiment connue pour sa nature assez verdoyante et aussi parce que c'est un centre de la culture Ainu. Donc, c'est une ville qui compte environ 4500 habitants et son activité est surtout agricole, avec un focus surtout sur la production de viande et de légumes. Et du coup, voilà, comme petite célébrité, on peut compter le bœuf japonais de la marque Biratori Gyu ou la tomate Nishipa no Koibito, qui sont un peu, voilà, des produits un peu phares de la région. Et en l'occurrence, dans le quartier Nibutani, toujours dans cette ville de Biratori, on va trouver un musée de la ville qui met vraiment à l'honneur la culture Ainu, ainsi qu'une maison Ainu traditionnelle restaurée, ce qu'on appelle en langue Ainu la chise. Pour parler un peu de l'histoire de Nibutani, donc c'est situé dans une vallée tout au long de la rivière Salu, qui est la plus longue rivière en fait de la région de Hidaka. Et la légende veut qu'il y a longtemps, un Kamui, c'est-à-dire une divinité appelée Okikolomi, soit descendue des rives de la rivière Salu, et que ce soit cette divinité qui ait transmis et enseigné aux Ainu tous les aspects de la vie et de la culture Ainu.
D'accord, donc c'est vraiment une culture animiste que les gens peuvent aussi connaître un petit peu par rapport à leur culture japonaise qu'ils ont aujourd'hui.
Oui, effectivement, c'est un des points forts. En tout cas, c'est une des choses pour laquelle on connaît bien la culture Ainu aujourd'hui. Toujours pour revenir à cette partie vraiment animiste importante, en fait, la ville, littéralement, est parsemée de nombreux sites mythologiques en fait, qui témoignent de cette histoire, comme Opunuspeli, qu'on appelle la montagne, enfin, qui veut dire la montagne perforée, ou encore Ukaeroski, le rocher en forme d'ours, et qui sont considérés en fait, comme très importants dans l'apprentissage de la littérature orale Ainu et de tous ces mythes. Donc la vallée de la rivière Saru, comme on disait juste avant, elle est parsemée de sites archéologiques également, pas seulement mythologiques, ce qui en a fait du coup de facto une région cruciale pour la partie vraiment archéologie Ainu de Hokkaido. Et on a aussi la chance d'avoir des documents qui permettent de découvrir la culture à travers les films et les œuvres du docteur Neil Gordon Munro, qui était un médecin écossais qui, en plus, était archéologue et anthropologue. Donc, effectivement, même à Hokkaido, ce n'est pas extrêmement courant, en fait, ce genre de lieux qui vont s'attacher à la protection, à la diffusion de la culture Ainu. Voilà, c'est assez spécifique.
On a un petit lien avec Laureline, puisqu'aujourd'hui, elle est en Écosse. Donc, voilà, on relie tous les intervenants.
Alors moi, du coup, j'avais une question parce que je sais que très récemment, il me semble que c'est en 2019, il y a eu une reconnaissance du peuple Aïnou. Est-ce que vous pouvez rapidement nous parler de ça ?
Effectivement, on a cette loi du coup en 2019, il y a eu plusieurs lois, mais ça, on pourra revenir dessus après si ça vous intéresse plus en détail sur l'évolution dans l'histoire. Mais là, la plus récente, c'est vraiment cette loi du coup de 2019 qui a du coup permis la reconnaissance du statut de Aïnou en tant que peuple autochtone, ce qui a permis en fait d'obtenir le soutien d'autorités nationales, mais locales également. Donc ça va être des initiatives, par exemple, commerciales pour favoriser un peu la vente, développer des produits pour un peu toucher plus de consommateurs. Donc l'idée, c'est vraiment de faire connaître mieux la culture Aïnou, y compris l'artisanat, et d'avoir un peu un regain d'attention sur cette culture qui n'était pas bien connue, en fait, même au Japon. Donc ça, effectivement, surtout à des niveaux, on va dire, locaux et nationaux, voilà, ça a été un vrai changement.
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur une reconnaissance très récente, mais la culture Aïnou, elle est millénaire, et elle est basée sur la géographie et des mythologies, avec un principe de dieu, d'esprit qui est associé. C'est vraiment très particulier, donc nous ce qu'on aimerait bien c'est que vous nous présentiez un petit peu toute cette mythologie pour qu'on comprenne un petit peu quelle est la base de la spiritualité Aïnou.
Alors pour commencer, Monsieur Abbé voudrait commencer par bien préciser du coup la spiritualité dans laquelle s'inscrit la mythologie Aïnou pour ensuite arriver à leur implantation et la zone géographique, parce qu'il montre déjà une grande différence avec le Japon, on va dire mainland. Déjà, la première différence dans la tradition du peuple Aïnou, c'est que leur culture spirituelle repose sur une croyance selon laquelle, en fait, toute chose de ce monde abrite une âme et que chaque âme est une entité immortelle qui voyage entre le monde des dieux et celui des humains. Ça, c'est vraiment la base de la spiritualité Aïnou. Donc l'idée, c'est que les humains, en fait, ne peuvent pas voir l'âme eux-mêmes avec leurs yeux, mais elle est censée apparaître dans le monde humain avec une forme, ça peut être un phénomène, ça peut être dans un corps, voilà, c'est comme ça qu'elle se manifeste, en fait. Donc toujours, un concept qui va être très lié à cette pensée-là, c'est celui du kamui qu'on avait évoqué un peu plus tôt, donc en langue Aïnou. On traduit souvent par dieu, parce que c'est très proche de kami, en japonais, on va dire standard. Mais contrairement à cette notion de dieu, parfois on va dire la connotation un peu chrétienne, on va plutôt être dans l'idée de quelque chose de plus proche du respect. Comme idée, les choses qu'on considère comme des kamui, ça va vraiment varier en fonction de l'époque, en fonction de la région, et ça peut inclure, mais alors, des animaux, des plantes, les montagnes, le soleil, la lune, ou même des éléments comme le temps, la météo, ou même des maladies infectieuses. Ça, c'est vraiment extrêmement large. D'autre part, donc on a donc toujours ces kamui qui sont objets de respect, mais ce ne sont pas des espèces d'entités qu'on adore de manière unilatérale par les humains. Au contraire, les kamui, on peut les blâmer, ils peuvent être apaisés, ils peuvent être flattés. Et aussi, leurs actions, leur personnalité, on va dire, ressemblent souvent à celles des humains, avec des traits de caractère distincts, des émotions singulières. Et l'idée, c'est que si les kamui ont le devoir de répondre aux prières des humains, les humains aussi ont le devoir de faire des prières en retour. Il y a quelque chose de l'ordre de l'échange qui se démarque un petit peu peut-être d'autres spiritualités. Et en fonction de tous ces concepts-là, dans la société traditionnelle Aïnou, on considère que pour maintenir une relation harmonieuse entre les humains et les kamui, que la prière est nécessaire afin de, voilà, d'avoir une vie quotidienne paisible, que c'est histoire de s'assurer l'équilibre entre les entités et les humains.
Merci beaucoup, on y voit effectivement plus clair sur la partie spiritualité Aïnou. Et alors maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas bien Hokkaido, est-ce que vous pouvez un peu nous en dire plus sur la région, l'implantation des Aïnou dans la région ?
Alors, selon les documents les plus anciens qu'on possède, on peut diviser la culture Aïnou en trois grandes régions. On va avoir les îles Kuril, les îles Sakhalin et Hokkaido. Et même si ces régions n'ont pas été complètement isolées les unes des autres, il y a quand même des différences dialectales, bien qu'il y ait une langue Aïnou qui soit commune. On va retrouver pas mal de points communs avec quelques petites spécificités locales à chacune de ces régions.
Donc pour les gens qui sont peut-être pas super calés en géographie, ce qui est hyper intéressant là, c'est qu'en fait la culture Aïnou, elle déborde de Hokkaido, puisque du coup ça intègre une partie de la Russie actuelle.
Oui, en fait c'est comme si on pouvait dire que c'est la région de Hokkaido plutôt que Hokkaido spécifiquement, en fait, où on reconnaîtrait des traces de cette culture-là. Alors, on avait précisé juste avant qu'il y avait donc trois grandes régions de la culture Aïnou, donc les îles Kuril, Sakhalin et Hokkaido. Là, on va parler un petit peu des Aïnou des îles Kuril. Eux ont développé leur culture en s'adaptant évidemment à un climat très rigoureux, tout en prospérant grâce à des ressources marines très généreuses et des activités commerciales. Et la différence notable de leur culture avec les Aïnous de Hokkaido et de Sakhaline, ça va être notamment la foi. Parce que quelques documents de l'époque moderne nous permettent de voir qu'ils ont été très influencés par l'arrivée des Russes au sud, et donc pas mal d'entre eux ont adopté la foi orthodoxe. Donc ont quitté en fait la foi traditionnelle Aïnou. Ça, ce serait la grosse différence avec les ceux de Hokkaido. Alors ensuite, par rapport aux Aïnous de Sakhaline, eux, encore autre chose, leur culture s'est nourrie au contact de la dynastie Ming et de la dynastie Qing sur le continent, ainsi qu'avec quelques autres groupes ethniques qui habitaient sur la même île, comme le peuple Nik, qui sont des peuples voisins. Donc c'est encore une autre influence pour cette partie-là. Et enfin, pour arriver du coup sur les Aïnous de Hokkaido, ceux qu'on connaît le mieux, donc ceux-là se sont établis principalement sur cette île-là, et en termes de diversité, ce serait plutôt des diversités internes qui seraient vraiment liées aux zones en fait dans l'île. Donc ça va être par exemple nord-sud, est-ouest, ça va être aux implantations un peu différentes, ou encore en fonction du côté de la rivière sur lequel ils étaient installés, parce que c'était leur zone de vie près de la rivière. Donc on va plutôt parler en ces termes-là de légères différences, variations locales. Et pour finir, concernant le nombre de personnes d'origine ethnique Aïnou connues ou recensées dans la ville de Bilatoli, on est autour de 440 personnes, mais c'est un chiffre qui n'est pas tout à fait exact parce qu'il y a des personnes qui ont déménagé ou d'autres qui ne sont pas recensées. Mais en tout cas, en statistique sûre, on va avoir ce chiffre-là.
D'accord, mais sur la localité de Bilatoli en elle-même, mais effectivement, ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a une communauté qui est éparpillée dans un peu partout à Hokkaido. Donc le nombre de personnes qui sont aujourd'hui de culture Aïnou est plus importante.
Effectivement, le chiffre qu'on a évoqué avant, c'est uniquement Bilatoli, et sinon, on va dire en termes plus larges, les dernières études étaient d'environ 6 000 personnes, mais comme c'est des études de population qui sont environ tous les 5 ans, en fait, ça peut beaucoup varier. Donc là, les derniers chiffres qu'ils ont, mais voilà, à quel point ça reflète exactement la réalité, c'est pas encore certain.
Alors, vous venez de nous parler du peuple Aïnou. Est-ce que vous pouvez nous faire maintenant une petite introduction à la culture Aïnou? Qu'est-ce que la culture Aïnou et qu'est-ce que c'est que d'être Aïnou aujourd'hui?
Alors, comme on l'a évoqué un peu plus tôt, les communautés du nord du Japon, donc Aïnou comme Hokkaido, c'est une culture principalement de chasse et de cueillette qui perdure depuis déjà l'époque Jomon, et une langue donc unique, orale, sans tradition écrite, qu'on transmet uniquement par les chansons, les rituels et des histoires. Donc déjà, on va observer une différence fondamentale dans les pratiques agricoles, l'élevage et la chasse. Évidemment, les différences d'une société de l'écrit, une société de l'oralité, ça structure quand même différemment les rapports sociaux et les institutions, enfin tout ce qui va être structurel. Et on peut aussi dire qu'à Hokkaido, le rapport à la nature, on va dire, et spirituellement, c'est certainement la culture qui a le rapport le plus proche de la nature du pays. Il n'y a pas d'autres endroits où il y aura un lien aussi étroit avec la nature. On peut même la comparer à, comment dire, l'ancienne façon de penser shinto-japonaise, dans vraiment son expression vraiment très simple du rapport à la nature. Donc on a quand même cette différence-là fondamentale. Alors ensuite, si on parle, on va dire, d'aujourd'hui, de la réalité plus contemporaine de tout ça, donc évidemment, les Aïnous attachent beaucoup d'importance à leur culture et à leur tradition, mais dans les faits, un grand nombre d'entre eux vit de la même manière que les Japonais, c'est-à-dire exercent des professions tout aussi diverses que le reste de la population. Après, effectivement, on va quand même trouver parmi eux bon nombre d'artisans Aïnous, des personnes qui vivent vraiment de la préservation et de la transmission de la culture, comme par exemple maintenir l'organisation de certains rituels Aïnous, etc. Et je me permets au passage d'introduire un terme qui pourrait être utile pour le reste de l'émission. C'est le terme wajin. Ça définit des Japonais non Aïnous.
Surtout, comme on le disait précédemment, en fait, la culture Aïnou est très peu connue, en particulier en France et même ailleurs dans le monde. Et donc, c'est vrai de pouvoir faire cette distinction. On n'a pas le mot, en fait. Donc, c'est bien de... Merci de nous expliquer cette différence-là à nos auditeurs aussi. Et donc, du coup, est-ce que vous pouvez un peu rentrer un peu plus dans les détails de la chronologie et de l'histoire du peuple Aïnou?
Alors, on va commencer, et juste du coup, pour petit rappel, on estime à peu près, comme il n'y a pas de document écrit, c'est un peu flou, on estime en tout cas l'histoire Aïnou au XIVe siècle à peu près. Au tout début, à la base, donc les Aïnos vivaient et survivaient surtout dans ce climat très très rude de l'environnement du Nord. Et leur activité principale était la chasse et la pêche. Les animaux de prédilection, ça allait être l'ours, le cerf, le saumon, le phoque. Et à côté, on allait donc les cueillettes, c'était des légumes sauvages qui permettaient de faire divers vêtements à partir donc soit des fibres de bois et de plantes, soit des peaux d'animaux qui avaient été chassés. Et en l'occurrence, à l'époque, les produits Aïnou, tels que les peaux d'ours, de loutre et d'autres animaux, les produits séchés comme le kombu séché ou la morue séchée, ainsi que l'artisanat avec les broderies, les sculptures, c'était commercialisé dans tout le pays, ça avait beaucoup de succès en fait. C'était vraiment des produits prisés et qui permettaient au peuple en fait de subvenir à ses besoins très bien.
Donc il y avait un échange entre le peuple Aïnou et donc les Wajin.
Alors effectivement, toujours pareil, donc on a un manque en fait de documents pour retracer ça précisément, mais au vu de ce qu'on a constaté en termes d'échanges ou de produits et de leur diffusion, le constat, c'est qu'il y a la supposition en tout cas, c'est qu'il y a eu vraiment des zones qui peuvent être portuaires principalement, d'échanges qui ont permis du coup l'acheminement de matières premières et des produits Aïnou. On a constaté des traces de ces échanges-là à l'époque. Il reprécise bien qu'effectivement, comme ce sont des traces qui ont été effectuées au cours de recherche, mais qu'il n'y a pas de documents imprimés, voilà, c'est vraiment plutôt de la supposition, mais pas quelque chose d'installé, affirmé. En 1603, c'est là que les problèmes commencent pour les Aïnous, puisque la période Sengoku prend fin au Japon. Pour information, cette période Sengoku, on l'appelle aussi la période des provinces en guerre, qui était une période de grande agitation politique au Japon. Elle prend fin, donc le shogunat Tokugawa unifie le pays, et là on entre dans la période de Edo. Donc l'année suivante, en 1604, le shogunat Edo ordonne au clan Matsumae, qui a un territoire vraiment au nord du pays, lui demande de monopoliser le commerce avec les Aïnous. Donc c'est évidemment le début d'une période très difficile pour les Aïnous, qui eux avaient acquis leur richesse grâce au commerce et au libre-échange de leurs produits avec le reste du pays. Et donc non seulement on les empêche de commercer librement, mais en plus le clan Matsumae leur offre des conditions commerciales vraiment désastreuses, ce qui entraîne un appauvrissement du peuple Aïnou et une grande dégradation en fait de leurs conditions de travail et leurs conditions de vie. Du coup, les Aïnous, qui étaient évidemment assez rebutés par la situation qu'on évoquait précédemment, sont devenus de plus en plus hostiles aux Wajin. Et en 1669, la guerre a éclaté, la guerre qu'on appelle la guerre de Shakushain, qui porte le nom en fait du dirigeant Aïnou, qui s'appelait comme ça, qui dirigeait l'armée. Donc il y a un soulèvement qui a été tenté contre le clan Matsumae. Et cette guerre, qui à l'origine était un conflit, on pourrait dire, relativement mineur entre groupes ethniques, s'est transformée entre la plus grande guerre de l'histoire, entre les Aïnous et les Wajin. Un accord a fini par être trouvé entre les deux clans, finalement, mais plot twist, lors d'une célébration avec de l'alcool rituel pour célébrer l'accord avec du saké, entre de nombreux généraux Aïnous, il y a eu une mutinerie. Et donc, ses dirigeants et Shakushain, donc le leader de ce mouvement, ont été assassinés par les hommes du clan Matsumae, et ce qui leur a permis en fait de récupérer et d'obtenir un pouvoir absolu sur les Aïnous.
Et sonoro.
Alors là, on va entrer dans la partie qui, je pense, va vous intéresser, qui parle vraiment du traitement d'Aïnou de façon plus contemporaine. Donc après ce conflit, la bataille de Shakushain, un peu plus tard, ça va être la fin du shogunat Tokugawa, et donc le Japon s'ouvre au monde extérieur, l'époque Meiji. Et lorsque le gouvernement Meiji est établi, en 1868, l'année suivante, on ouvre le Kaitakushi, qu'on peut traduire par le bureau de développement de Hokkaido. Et à partir de ce moment, le gouvernement japonais, qui aspirait à se définir comme pays civilisé, a décrété, considéré que la culture Aïnou était barbare, parce que d'origine autochtone. Et c'est là qu'ont commencé les premières politiques d'assimilation, qui ont par exemple interdit, supprimé l'utilisation de la langue et de la culture Aïnou. Ça marque le début un peu des franges d'hostilité au niveau national. Du coup, suite à l'installation de ce bureau de développement Ainu, de nombreuses terres en fait, qui appartenaient aux Ainu sont confisquées et la chasse au saumon, la chasse aux cerfs, qui étaient leurs principales sources de revenus, sont interdites sous couvert de protection de la nature. Et ensuite, un peu plus tard, en 1899, il y a une nouvelle loi qui est décrétée, c'est la loi de protection des anciens indigènes de Hokkaido, qui est déjà un nom très discriminatoire, et qui est théoriquement destiné à protéger les Ainu, mais en fait, ça continue en fait juste l'introduction des politiques colonialistes, hein, je pense qu'on peut le dire comme ça, telles que l'obligation d'utiliser la langue japonaise, mais cette fois avec vraiment des bases juridiques. Et donc, cette loi de protection a duré une centaine d'années, jusqu'à son abrogation en 97, et en fait, pour le peuple Ainu, ça a été vraiment une période de discrimination et d'oppression vraiment, vraiment terrible. C'était vraiment les 100 ans parmi les plus difficiles de leur histoire.
Mais c'est vrai qu'on voit, on voit aussi le mouvement qu'il y a eu à l'époque Meiji sur le Japon en tant que tel, où il y a eu ce durcissement, cette volonté d'aller en avant, d'écraser aussi un peu d'anciens rites passés, la séparation shinto-bouddhiste. Là, on le voit aussi, mais encore en pire, en fait, sur la partie Ainu, où il y avait vraiment eu cette volonté de presque effacer cette partie-là culturelle, finalement.
Il explique qu'effectivement, c'était cette intention-là, et qu'il y avait même, du coup, des écoles primaires, par exemple, en langue japonaise, prévues pour les enfants Ainu, vraiment pour que, dès leur jeunesse, ils soient complètement dans l'assimilation. C'était vraiment cette volonté de complètement lisser, éradiquer ce patrimoine culturel-là, quoi.
Oui, donc effectivement, histoire très lourde, très compliquée, mais si on fait un bond en avant, heureusement, on n'est plus du tout sur ces difficultés aujourd'hui. Donc est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer sur les 30 dernières années ce qui a vraiment été un point de basculement et qui fait qu'aujourd'hui, le peuple Ainu n'est plus persécuté et est bien mieux reconnu?
Alors, pour continuer sur la partie juridique et historique, en 1986, le premier ministre japonais de l'époque a fait une déclaration dans laquelle il disait que le Japon était un pays monoethnique. Et ça a déclenché la fureur des Ainu, qui a explosé. Vraiment, ça a été un rare soulèvement, une grande colère. Et en réponse à cette déclaration, toutes les organisations Ainu de Hokkaido et du reste du pays se sont unies pour lancer en fait un mouvement politique pour protester. Et c'est ce mouvement qui a permis donc en 97 la révocation, l'abrogation de la fameuse loi de protection des anciens indigènes de Hokkaido. Et donc cette loi a été abrogée et remplacée par la loi pour la promotion de la culture Ainu, dans le but d'éliminer la discrimination envers le peuple Ainu et de transmettre sa culture à la génération suivante. Donc, ce que ça a déclenché concrètement, cette loi-là, c'est qu'à partir de cette année-là, on a eu des subventions qui ont commencé à être accordées pour la recherche sur les Ainu, mais aussi sur des initiatives de promotion culturelle, ce qui a permis en fait la création d'une variété de contenus liés aux Ainu. Alors qu'avant, il y avait assez peu de documentation, ça a vraiment permis cet essor-là. Et on va continuer ensuite avec une autre petite mesure intéressante.
Donc,
dans la suite de cette première reconnaissance, en 2007, on va avoir la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, donc par l'ONU. Donc pour la première fois en fait au Japon, la question d'Ainu est devenue un enjeu international majeur, alors qu'avant c'était perçu par le gouvernement et les habitants comme quelque chose de local. Donc on a vraiment ces vrais changements dans la perception. Et du coup, suite à l'annonce de l'ONU, cette Déclaration sur les droits des peuples autochtones, en 2008, la Diète japonaise a adopté à l'unanimité une résolution du coup qui appelait à la reconnaissance du peuple Ainu et qui a vraiment été validée chambre basse, chambre haute, tout le monde. Donc là, c'était vraiment concrètement rendre cette question Ainu, la mettre sur la table à un niveau international, ne pas juste rester dans quelque chose de local. Après cette longue période difficile et du coup toutes ces lois successives qui amenaient à la reconnaissance du peuple Ainu, on a un événement marquant, il y a eu l'ouverture d'une espèce d'installation culturelle sur les Ainu qui s'appelle Upopoi, qui est un espace symbolique pour la coexistence ethnique, qui est donc une installation nationale pour la première fois qui a été construite et qui a ouvert ses portes en 2020. Et ça, c'est un lieu qui a attiré énormément d'attention et aussi qui a eu beaucoup de couverture médiatique, qui a permis vraiment de diffuser, de faire parler un peu plus des Ainu. Et toujours dans la partie mainstream, il y a eu le manga à succès Golden Kamuy, dont l'héroïne est une jeune fille Aïnou, qui a suscité beaucoup d'intérêt en fait aussi chez les jeunes Aïnou, mais aussi la jeunesse en fait locale.
Alors justement, Golden Kamuy, moi c'était comme ça que j'avais découvert un peu la culture Aïnou, parce que je l'avais vu en animé, il me semble, pendant le premier confinement. Et je me posais la question à quel point il était authentique en fait, à quel point les détails Aïnou étaient vrais dans ce manga-là.
Effectivement, l'auteur du manga en fait s'est vraiment rendu à Hokkaido, a visité plein d'endroits, notamment Nibutani. Il est venu en fait se renseigner le plus précisément possible sur la culture Aïnou. Et ce que disait Monsieur Abe, c'est qu'effectivement, il a été lu évidemment par des lecteurs d'origine Aïnou. Et ils ont vraiment trouvé que s'il y avait des petites erreurs, elles étaient vraiment très peu nombreuses. Et c'était plutôt exact et proche. Enfin, c'était pas un portrait grossier. Il y a une vraie volonté de documentation, en tout cas de l'auteur.
D'accord. Bon, bah, du coup, on pourra le recommander à nos auditeuristes de le lire ou de le regarder. Moi, je l'avais beaucoup aimé, donc je suis contente que ça ne soit pas complètement grossier.
Ah!
Effectivement, même quand on parlait tout à l'heure dans le manga des éventuelles petites erreurs qu'il pourrait y avoir, c'est parce qu'en fait, à Hokkaido, comme il y a plusieurs communautés Aïnou, parfois il y a des petites différences entre elles. Et en fait, c'est à ce niveau-là que ça se joue, qu'il y a peut-être... Mais bon, ça reste vrai, mais peut-être pas sur la bonne communauté, pas la bonne région, mais voilà, ça se joue là. Donc c'est vraiment plutôt quali, en théorie.
Donc si on veut conclure un peu avec cette partie histoire... C'est vrai que du coup, c'est quand même très très lourd, ça a été très compliqué. Moi, j'ai un peu envie de retenir une note d'espoir depuis 30 ans, parce que c'est vrai qu'on a vraiment l'impression qu'on est sur une autre dynamique, qu'on est passé d'une assimilation forcée hyper dure, où c'était très compliqué dès la plus jeune enfance, avec maintenant des mesures qui sont là pour porter la culture, pour la faire connaître auprès des jeunes générations. Et donc justement, ce qui m'intéressait un peu, c'était de savoir comment... cohabitait cette culture Aïnou aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on est vraiment encore sur cette méfiance par rapport au passé ? Est-ce qu'au contraire, on est plutôt vers mieux comprendre l'autre avec ses reconnaissances au niveau légal, national ? Voilà, comment est-ce que, en fait, la culture Aïnou cohabite aujourd'hui dans le Japon d'aujourd'hui ?
Alors effectivement, aujourd'hui, tout ce rapport entre les Aïnou générations contemporaines, effectivement, la génération jeune n'a pas grandi dans cette espèce ce souvenir de la discrimination ou de l'oppression, donc c'est quelque chose qui n'est pas conscientisé très fort. En revanche, les générations plus âgées, elles, ça reste des lois extrêmement récentes et c'est quand même un peuple qui a été très marqué par ça. Et donc effectivement, on ne peut pas nier l'impact réel de cette époque à peine révolue en fait, hein, c'est quand même très très récent. Je pense qu'on a quand même aussi, de la part de Aïnou, une vraie fierté d'avoir réussi, enfin, en tout cas d'avoir préservé un terrain qui a été quand même grignoté par des... Parce que beaucoup des terres, en fait, ont été données à des exploitants japonais, par exemple, pendant la domination Wajin. Et donc, je pense qu'il y a quand même cette notion d'un terrain isolé, d'un terrain pas hyper grand, et de l'occuper, d'avoir un lien vraiment, je sais pas si je peux dire vernaculaire, en tout cas quelque chose de vraiment proche. Et ça a contribué aussi à un sentiment de fierté communautaire.
Alors du coup, maintenant, on a vu tout ce qui est la spiritualité Aïnou, on a vu la géographie, on a vu un peu l'histoire du peuple Aïnou. Et rapidement, est-ce que vous pouvez nous parler de la langue Aïnou ? Parce qu'elle est totalement différente de la langue japonaise moderne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette différence ?
Effectivement, la particularité la plus notable de la langue Aïnou, c'est qu'elle n'a pas de langue écrite. C'est-à-dire que toutes les histoires Aïnou sont transmises oralement. Et ce sont plutôt les groupes ethniques environnement par lesquels on a pu avoir des traces de certains événements. Et la langue Aïnou, donc, c'est une langue très différente de la langue japonaise. Je pense que ça peut se voir avec certains noms de lieux qu'on va entendre au long de l'émission. Ça sonne vraiment très différemment. Et comme ça n'a pas de graphie, on la transcrit actuellement, même aujourd'hui, avec soit de l'alphabet, soit des katakana, un des syllabaires de la langue japonaise. Mais par contre, on va avoir des arrangements qui n'existent pas en fait en japonais. Par exemple, des signes qui vont être en plus petit, il y a des dispositions de caractères qui vont être tout à fait singuliers. Et c'est vraiment très spécifique à la langue Aïnou.
Donc ça, c'est le but de pouvoir retranscrire en fait tous les sons que la langue japonaise ne comprend pas de base en fait.
Alors par exemple, shishiri muka, pour transcrire le li, on va normalement utiliser le li de katakana classique, mais là en fait on va le faire en tout petit, comme un petit se ou une petite lettre comme ça, parce qu'en fait c'est pour indiquer qu'on prononce beaucoup moins, qu'il va être plus doux. Alors qu'en japonais on va jamais avoir de petit li, ça n'existe pas, donc ça va être ce genre de choses-là qui vont varier pour être au plus proche de la phonétique Aïnou. Ah ben en fait, on voit bien d'ailleurs aujourd'hui dans par rapport à l'influence de la langue que tout simplement le nom de Sapporo ou le nom de Pilatoli, tout ça, c'est des noms issus en fait de la langue Aïno. Et du coup, M. Abe explique qu'il y a quasiment 80% des endroits, des localités de la région qui viennent, qui découlent de cette langue-là, et qui ont vraiment marqué en fait la topographie de l'île.
Oui, donc effectivement, ça explique un peu les différences d'écriture entre... la langue japonaise et la langue Ainu. D'ailleurs, je me souviens, j'avais vu des flashcards pour apprendre la langue Ainu à l'exposition que j'avais vue à Londres. Donc, c'était assez intéressant de voir comment la langue Ainu était retranscrite avec les katakana. Et donc, pour rebondir un peu tout sur cette préservation de la langue Ainu, de manière générale, quelles sont les initiatives actuelles pour toute cette préservation de la culture Ainu et en particulier à Nibutani?
Alors, on peut avoir plusieurs choses. Chaque région de Hokkaido va avoir ses propres initiatives, mais pour Nibutani, précisément, il y a vraiment un focus sur la transmission de leur savoir-faire par des artisans vraiment confirmés à leurs descendants pour que les techniques traditionnelles ne se perdent pas. D'autre part, ça c'est assez important au niveau international, la langue Ainu a été reconnue comme extrêmement menacée par l'UNESCO, en fait, qui a un atlas des langues en péril. Et du coup, ça a permis en fait de vraiment lancer tout un programme de cours de langue Ainu pour les écoliers de la région, qui est vraiment focus sur la langue et sa transmission. Et d'autre part, on va avoir des espèces de petits programmes immersifs pour les touristes, qui vont avec entre autres des démonstrations d'artisanat, des ventes, autant au Japon qu'à l'étranger. Donc, toujours dans l'idée de faire connaître au plus grand nombre au niveau local et international la culture en général, surtout Nibutani, qui est quand même reconnue même au sein de Hokkaido comme étant une zone vraiment précieuse de cette culture-là. Donc, voilà, l'idée, c'est de faire connaître ça, comment dire, en tant que partie intégrante de la culture japonaise. Donc ça, ce sera les choses, en tout cas les initiatives actuelles de la région.
D'accord, donc effectivement, aujourd'hui, la culture, elle est vraiment vivante. Et ça, c'est plutôt chouette parce que ça veut dire que qu'il y a toujours des traditions qui perdurent et qu'on peut voir pas mal de choses et qu'il y aura une transmission aussi pour les enfants de demain, Ainu, et puis pour les visiteurs aussi qui viennent dans la région. Donc ça, c'est cool. Et du coup, sur la région de Nibutani, si justement on vient vous voir, au niveau artisanat, qu'est-ce qu'on peut voir précisément, ce que vous expliquez vraiment que le peuple Ainu a des caractéristiques géographiques, mais plus précisément sur Nibutani, au niveau artisanat, ça se présente comment?
Bien qu'il existe une très très grande variété d'objets artisanaux traditionnels à Nibutani, les deux pratiques les plus importantes, qui sont vraiment les plus connues dans la vie de Pilatoli, ça va être le Nibutani Ita et le Nibutani Atsushi, qu'on va présenter un peu plus bas. Et ce sont des pièces qui sont fabriquées avec les mêmes méthodes, les mêmes outils, les mêmes matériaux depuis plus de 100 ans, et qui ont obtenu en 2013 la désignation d'artisanat traditionnel par le ministère de l'Économie, Commerce et Industrie. Et c'est les seuls en fait qui ont reçu cette appellation Hokkaido. C'est les seules pratiques qui ont eu ce nom-là. Là, on va expliquer ensuite un peu plus précisément, on va parler un peu du Ita maintenant. Du coup, pour parler un peu de ce qu'on appelle Nibutani Ita, ce sont des plateaux plats en bois dont la surface est ornée de motifs Ainu. Et c'est un motif qui est très très spécifique parce qu'il se caractérise par la combinaison de quatre sous-motifs, on va dire. Il y a ce qu'on appelle le Moreo no Ka, c'est un motif en forme de spirale. On a le Ayushi no Ka, là c'est en forme d'épine. Le Shikuka en forme d'œil, et enfin le Lame-Lame Noka en forme d'écaille. Donc ça va vraiment être la composition de ce motif-là traditionnel. Donc, par rapport à ces motifs traditionnels, voilà, c'est vraiment une des caractéristiques distinctives de Nibutani dans son utilisation. Et en termes historiques, on a des documents qui nous prouvent que des Ita ont été présentés au shogunat par le clan Matsumae qui occupait à l'époque du coup, Hokkaido. Et par rapport à cette pratique de la gravure, on peut comparer en fait presque le rapport d'un peintre avec sa toile. C'est vraiment la planche, le bois comme canevas un peu. Et l'idée, c'est qu'en fait, les artisans sont libres de développer un peu leur dessin sur les plateaux, tout en gardant la tradition. C'est-à-dire qu'ils peuvent réinterpréter ces motifs. Tant qu'ils sont toujours présents, qu'on a la spirale, l'épine, l'écaille, eux, ils sont complètement libres d'exprimer leur individualité dans la façon de graver, etc. Donc, c'est un peu un compromis entre la tradition et vraiment une expression singulière, personnelle de l'artisanat. Alors, là, on va parler du coup maintenant du Hattushi, qui est l'autre grande pratique artisanale de Nibutani. L'Hattushi, c'est un tissu en toile qui est tissé à partir de l'écorce des arbres, donc en l'occurrence du flétan, qui est une sorte d'orme, ou du tilleul japonais. Et on appelle également Hattushi les vêtements qui sont faits avec ce tissu. C'est une appellation générique qui marche autant pour la matière que pour le vêtement. Et c'est un processus particulièrement laborieux, on va dire, pour obtenir ce tissu. Puisqu'il faut déjà retirer l'écorce, ensuite la bouillir pour la ramollir, la laver dans un ruisseau, en tout cas de l'eau courante pour enlever la sève, nettoyer l'écorce intérieure, la nettoyer, ensuite les peler, la déchirer en fines bandes avec les bouts des doigts, et ensuite les tordre et filer ensemble en fait, les fibres ainsi obtenues. C'est assez long. Vous pouvez être motivé par du temps. Et ensuite, les fils, du coup, on les utilise pour les tisser, en fait. On va utiliser un métier à tisser qui est fixé autour de la taille. Donc, pour reprendre le système de tissage, on vient mettre en fait, les fils sur un métier à tisser autour de la taille. Comme il n'y a rien de mécanique, tout est manuel et ça nécessite pas mal de force parce que c'est avec la pression du corps qu'on va pouvoir venir tendre le fil. Les fils aussi sont extrêmement tordus, entortillés, ce qui est une caractéristique du Hattushi. Et ça rend ça en fait super résistant à l'eau. Et c'était très utilisé par les marins, par exemple, comme vêtements de travail. On a aussi eu des traces d'acteurs kabuki qui portaient des vêtements en Hattushi pendant certaines représentations. Et on a même les premières mentions du bassin de la rivière Saru, enfin de Nibutani, dans des documents historiques du début du 18e, donc encore plus ancien que le Ita, qui nommait, qui parlait du Hattushi. Il y a même une écrivaine britannique, Isabella Bird, qui en a parlé dans un de ses ouvrages. Donc ça a quand même été une pratique qui a été connue et qui a été assez diffusée. Voilà, donc ce tissu, et il faut savoir que c'est un tissu qui a un rendu assez intéressant, qui est très très souple et qui avec sa patine prend quasiment un rendu qu'est-ce comme du cuir en fait. Il y a vraiment, c'est un tissu super doux. Alors qu'au début, on se dit que de la fibre, c'est pas ça qui va donner ça. Et à l'usage, il y a vraiment quelque chose de très organique, en fait, dans la matière.
Alors, je saute sur l'occasion qu'on en ait à parler des artisanats, parce que nos auditeurs utilisent notre podcast pour voyager et découvrir de nouvelles choses au Japon. Et du coup, j'ai fait des recherches et j'ai vu qu'il y avait la possibilité de faire des ateliers pour faire de la gravure sur bois. Je crois que c'est des sous-verres qu'on peut faire. Comment ça se passe, en fait, pour faire les réservations? Est-ce qu'il faut réserver? Ou est-ce qu'on peut juste venir le jour J et voir s'il y a un atelier le jour même?
Alors, concernant le musée de la culture de Nibutani, ça, effectivement, c'est mieux que de réserver par mail. Il y a du personnel qui parle anglais. Et effectivement, ce sera sous les jours d'ouverture du musée. Et ça, normalement, c'est possible toute l'année. Voilà, juste bien penser à regarder les horaires d'ouverture, mais en tout cas, il est possible de réserver ceci. Pour en tout cas, le programme, comme ça, il est possible de préparer à l'avance le nécessaire. Donc ça, ce serait pour celui de la culture de Nibutani. Pour pas mal d'autres institutions en fait, du coin, c'est également possible en réservant à l'avance de participer à des programmes d'expérience qu'on appelle Taiken Programme, comme par exemple le musée Kayano, le Shigeru Nibutani, qui est à Hidatori. Enfin, voilà. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de prévenir à l'avance, mais il y a vraiment une grande diversité de programmes.
Ah, ça, c'est chouette parce que du coup, on va pouvoir se ramener des petits souvenirs qu'on aura fait nous-mêmes sur place. Donc, ouais, c'est super cool. Alors, puisqu'on est dans les choses à voir en tant que visiteur, est-ce qu'il y a des festivals auxquels on peut assister? Alors, par exemple, on parlait en tout début d'épisode de cette relation forte entre les Aïnous et la nature. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce lien et des festivals auxquels on peut assister et qui s'y rapportent?
Aïnous no bunka ya... L'idée, c'était vraiment que par rapport au lien à la nature, il y a vraiment cette idée importante lors de la collecte d'aliments ou de matières premières de garder toujours en tête l'idée d'éviter la surexploitation. C'est-à-dire de toujours maintenir une idée d'équilibre vraiment dans ce lien avec l'environnement. Ce qui s'explique également, de toute façon, comme on avait dit plus tôt, avec les kamuis, dans le fait qu'ils soient présents dans toutes les formes et manifestations physiques du monde, autant que la lumière, les maladies, etc. Donc l'idée, c'est vraiment voilà, de toujours être dans cette notion d'équilibre. Là, du coup, M. Abbé voulait nous partager notamment des rituels liés à la nature qui ont beaucoup structuré la vie sociale à Innu. On va par exemple avoir un des plus connus qui est le Asili Tsepunomi, qui est le rituel du premier saumon qui est pêché, qui est ensuite offert à un kamui, parce que le saumon, c'est considéré comme un aliment très important pour les Ainu, et que les saumons, ils ont la particularité de retourner à la rivière où ils sont nés à l'automne, plusieurs années plus tard. Et ça, c'est une fête qui a lieu dans de nombreuses régions à Hokkaido à l'automne, et il est également possible d'y assister quand on vient en visite là-bas. Par contre, il faut réserver. Chaque ville un peu a le sien, mais en réservant, ça, c'est absolument quelque chose auquel on peut participer. Et là, du coup, M. Abbé voulait partager une anecdote, une légende, mais qui, je pense, pourra parler pas mal aux visiteuristes qui viendront à Hokkaido. C'est une des légendes de Nibutani qui explique l'histoire de la montagne percée d'un trou qu'on peut voir à Hokkaido, qui s'appelle Opsinopoli. En fait, on raconte qu'à la suite d'un conflit entre Ainu, un kamui qui s'appelait Okikolomi a tiré avec un arc une flèche d'armoise qui a percé un trou dans la montagne en voulant apaiser le conflit. Et apparemment, ça a tellement surpris les humains que ça les a calmés. Et ce qui est sympa, c'est qu'au solstice d'été, quand le soleil se couche, on le voit vraiment apparaître en fait dans le creux de la montagne par le trou. Donc c'est, voilà, c'est pas à proprement parler un rituel, mais c'est des légendes. On voit bien que tout ce qui structure le folklore Ainu, c'est vraiment 100% lié à la nature. C'est toute la mythologie.
Moi, la dernière question que j'avais par rapport à ça en tant que visiteur lambda, est-ce qu'en fait, il y a l'équivalent de sanctuaire ou de temple qu'on peut visiter en se promenant dans les villes, les villages, enfin, la partie cérémonie, rituel, est-ce qu'il y a un lieu spécifique ou est-ce que c'est plutôt donné de manière communautaire sur des lieux qui ne sont pas forcément désignés?
Alors effectivement, en fait, dans la culture Ainu, on ne va pas avoir de lieu en dur associé, il n'y a pas de temple, il n'y a pas d'hôtel, ce n'est pas comme ça que ça se manifestait. Autrefois, en revanche, devant chaque maison, il y avait un petit espace comme ça dédié à la spiritualité. Et sinon, ce que disait M. Abbé, c'est que plutôt que des lieux comme ça fixes, il va y avoir, mais ça va être un niveau très local, disons tel étang qui va être connu pour tel kami ou tel petit bout de forêt. Enfin, ça va être un peu des endroits comme ça, mais qui ne sont pas balisés forcément, avec marqués comme ça dans l'espace public. Ce sont plutôt des endroits un peu qu'on sait, qu'on se transmet. Voilà. Il n'y a pas à proprement pas de lieu comme ça, de recueillement. C'est plutôt quelque chose de partagé avec les rituels, les cérémonies.
Oui, donc il n'y a pas de Shimenawa pour marquer des lieux, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de porte. Ce qu'on expliquait au tout début de l'épisode, c'est vraiment le côté très pur de la nature, où du coup, en fait, il y a la relation avec le kamui, mais il n'y a pas de marque de l'homme pour l'identifier, en fait. C'est...
Et effectivement, là, ce que m'expliquait M. Abbé, c'est que, un peu comme dans le côté Shinto, on considère qu'il y a vraiment des esprits partout. C'est-à-dire que où que l'on se trouve, il y aura des esprits, des bons, des mauvais. Et par exemple, ça peut être comme quand on rentre dans une forêt, on va le dire, ah, je rentre dans la forêt, se présenter un peu dans les lieux où l'on va. C'est vraiment un rapport assez intégratif où les esprits sont partout dans toutes les choses du monde. Et où que l'on soit, on est en présence du kamui, de la spiritualité, de l'entité en tout cas. Donc pas la peine de le marquer puisque c'est partout. Ah, quelque chose de...
ça fait sens.
Oui, c'est évident en fait.
Alors malheureusement, on va arriver sur la fin de notre temps imparti par Zoom. On aurait bien continué, nous, mais c'est le logiciel malheureusement qui ne va pas nous laisser faire. Du coup, Monsieur Abbé, en dernière question, je voulais vous demander si vous aviez un mot à adresser à nos auditrices pour conclure cet épisode.
Je crois que la chose qui lui ferait le plus plaisir, ce serait que, grâce à cette émission ou d'autres ressources, que cette culture Nibutani Ainu, en tout cas, puisse être transmise entre amis, en famille, continuer à être transmise, en fait, dans la tradition de cette littérature orale, que ça continue à exister, et ça, c'est ce qui lui ferait le plus plaisir.
Bah, c'est un peu notre but avec Tabibito, en fait, de montrer d'autres aspects qui sont moins connus, moins mainstream du Japon. Et en fait, ça nous a fait tellement plaisir que vous ayez accepté de prendre tout ce temps de passer avec nous pour nous parler à nous et puis bien sûr à nos auditeurs. On va faire le maximum pour que cet épisode vous plaise à vous aussi, en tout cas. Donc, merci beaucoup.
Arigatou gozaimasu.
Eh bien, merci beaucoup, monsieur Abe. Merci pour le temps que vous nous avez accordé. J'en profite aussi pour vraiment remercier Soline, qui nous a été d'une grande aide sur cet enregistrement et qui nous a porté de sa douce voix sur cet épisode. Voilà, donc c'était très bien. Et puis, on profite aussi de la fin d'enregistrement pour remercier Hiroko-san, qui nous a beaucoup aidé pour faire la rencontre de monsieur Abe et qui nous a aidé aussi pour préparer l'épisode avec tous les lieux à référencer et les comptes qu'on va vous recommander sur la fin.
Et donc justement, pour notre partie coup de cœur, on n'a pas pu demander à monsieur Abe c'était quoi ses coups de cœur pour que vous puissiez découvrir la culture à nous deux chez vous, mais on nous a laissé plein de pistes à explorer et on va vous parler de tout ça dans notre section coup de cœur. C'est parti, jingle.
On se retrouve donc dans la section coup de cœur. Tout à l'heure, on a parlé d'un manga qui s'appelait Golden Kamuy, que tu avais beaucoup aimé, Laureline. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Oui. Donc, Golden Kamuy, qui est fait par le mangaka Satoru Noda, parle en fait de la rencontre entre Saichi Sugimoto, qui est un vétéran de la guerre russo-japonaise. Et donc, il se retrouve à Hokkaido. Il est dans un bar et il tombe sur un monsieur complètement éméché qui lui parle d'un trésor secret des Ainu, avec une carte qui a été tatouée sur le dos des prisonniers d'une prison Ainu. D'ailleurs, si vous avez suivi l'épisode, ce grand chef Ainu dont on nous parle dans l'épisode serait à l'origine de cette carte. Et en fait, il se trouve que c'était un secret. Ce monsieur n'était pas censé le dire. Donc, il essaye de tuer Sugimoto. Et c'est une jeune fille, Ashiripa, qui le sauve. Et cette jeune fille est donc une jeune fille d'un village Ainu. Et c'est comme ça que commence leur rencontre et leur aventure épique à Hokkaido. Moi, j'ai tellement aimé déjà le chara-design des personnages, l'histoire que j'ai trouvé géniale, les chasses au trésor. Moi, j'ai toujours rêvé d'être pirate quand j'étais petite, donc tout de suite, les chasses au trésor, ça me parle. Et tous ces éléments en fait, de la culture Ainu qui étaient vraiment très bien amenés, expliqués. Et ouais, il y a toujours ces interactions très drôles entre les deux personnages qui se découvrent l'un l'autre et leur culture. Donc ouais, franchement, c'était un gros coup de cœur. Donc je peux vous le recommander aussi, moi, en tant que personne qui l'ai vu, sans avoir rien su de la culture Ainu avant.
Et donc, c'est en combien de tomes et est-ce que c'est fini ?
Non, c'est pas fini, c'est en continuation. Donc, c'est édité chez Kihun. C'est actuellement sur 31 volumes. Mais c'est aussi disponible en animé sur Crunchyroll. C'était là que je l'avais vu. Donc, ouais, foncez, c'est trop bien.
Bien, eh ben, tu parles de Crunchyroll, ordinateur, écran, audio, musique, vidéo. Est-ce qu'on a des choses à écouter sur la culture Ainu ?
Alors, écoutez, oui, on nous a transmis deux groupes. Moi, il y en avait un que j'avais découvert avant en faisant des recherches sur la culture Ainu. Alors, je ne suis pas sûre de la prononciation parce que ça s'écrit M-A-R-E-W-R-E-W.
Bon, puis t'as pas fait Ainu cinquième langue, donc voilà.
Voilà, non. Je suis allée voir sur YouTube pour essayer de savoir si elle se présentait à un moment quelque part dans un live. Et donc apparemment, c'est Mareu. Quelque chose comme ça. J'espère que je le dis bien. Excusez si j'ai écorché. C'est un groupe féminin de chants traditionnels, principalement a cappella. Alors, j'ai écouté, ça s'écoute en fait pour découvrir un peu la langue Ainu, mais c'est des sons et des mots qu'on connaît pas, donc je sais pas si on peut se taper toute une playlist Spotify, mais j'ai trouvé ça super intéressant de l'écouter. Je vous conseille plutôt d'aller voir des lives sur YouTube, parce qu'il y a aussi des danses associées, puisqu'à la base, ça se fait dans des rituels ou des cérémonies ou des festivals. Donc, je trouvais que c'était plus interactif et plus plaisant de les voir comme ça en vidéo. Et le deuxième groupe s'appelle Okidub Ainu Band. Pour le coup, c'est un peu plus facile de l'écouter en playlist comme ça, en fond, parce que c'est plus un instrumental. C'est basé sur un instrument traditionnel, le tonkori. Vous avez aussi de la guitare basse, de la batterie, du synthé. Du coup, c'était plus facile à écouter. Ouais, moi, j'ai trouvé ça bien pour se poser, faire musique d'ambiance. Donc, ouais, je peux vous recommander les deux. C'était super chouette. Alors, du coup, puisqu'on parle un peu de musique, Olivier, est-ce que tu peux nous reparler un petit peu de ces festivals et de ce qu'il y a à voir ? Parce qu'on n'a pas parlé de notre carte, qu'on vous mettra bien sûr dans notre description de cet épisode.
Alors, c'est vrai que Monsieur Abbé en a parlé un petit peu. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de musées, d'offices de tourisme, de centres qui vous permettent sur place d'accéder facilement à la culture Ainu. Donc, comme d'habitude, on vous a fait une petite carte avec toutes les infos qu'ils nous ont laissées. Et ça vous permettra, comme d'habitude, de rechercher les lieux et faciliter l'organisation de votre séjour dans la région. En complément, ce qui ne sera pas sur la carte, c'est les Matsuri. Donc, il y en a deux qu'on vous recommande en participation. Alors, si vous avez prévu un voyage cet été au Japon, et c'est le cas pour beaucoup d'entre vous parce que vous êtes liés aux vacances scolaires, donc si jamais vous allez à Hokkaido pour échapper un peu à la chaleur et que vous êtes en août, on vous recommande d'abord le 18 août cette année, donc le festival Chippusanke. Donc c'est ce qu'on a abordé tout à l'heure, donc qui consiste en fait à célébrer le dieu de la montagne qui lui fournit le bois et le dieu du fleuve qui transporte le bateau qui est fait avec le bois de la montagne. Donc c'est un rite ancestral qui est donné en langue Ainu et donc il y a aussi un lien avec le transport de l'âme. Donc c'est vraiment caractéristique en fait du principe de Kamui qu'on a expliqué tout au long de l'épisode. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à ne pas manquer. Et sinon, un petit peu plus tard, en septembre, donc traditionnellement, c'est fin septembre, mais là, on n'a pas encore la date pour 2024, on a le festival Ashiri Teppu no Mi, qui, lui, correspond à ce qu'on a présenté dans l'épisode. C'était la capture du saumon avec les techniques traditionnelles de pêche Ainu. Et là, en plus, on a la possibilité de déguster des plats traditionnels sur place pendant le festival. Donc ça, c'est doublement recommandé parce qu'on a le Matsuri et on a la partie bouffe après.
Ah oui, alors surtout, n'oubliez pas que pour ce festival Ashiri Teppu no Mi, il faut s'inscrire. C'est gratuit, mais il faut s'inscrire.
Ouais, à pas oublier.
Voilà, et donc sur ce, on vous a un peu présenté tout ça. Juste pour conclure, peut-être parler des comptes Instagram pour que vous puissiez suivre vous-même un peu l'actualité Ainu.
Alors, les comptes Instagram, donc en fait, c'est assez simple. On vous en présente deux principalement. Donc, le Nibutani Ainu Craft Paris, c'est @nibutaniainu.fr sur Instagram. Donc là, vous aurez des informations sur vraiment ce qui peut se présenter en France. Donc n'hésitez pas surtout à suivre les stories. Il y a pas mal d'informations qui sont données en story. Et puis le compte général, Nibutani Ainu Craft, donc c'est @nibutani.ainu.craft, où là, vous aurez plutôt le compte principal, en fait, générique en anglais.
Et pour la toute fin, moi, je vais vous parler de deux expositions. Donc, la première qui est à Londres, que je suis allée voir, qui est encore accessible jusqu'au 24 avril. Le titre, c'est « Histoire Ainu, les vies contemporaines sur les rives de la rivière Saru ». Moi, vraiment, je vous recommande de la faire parce que c'est une expo assez grande, c'est gratuit. Vous avez plein de atushi en exposition, de la gravure sur bois et aussi plein d'explications rapidement sur l'histoire Ainu. Mais le but de cette expo, c'est de parler de la culture Ainu dans le monde actuel, donc ce qui est mis en place, donc la préservation de la langue, mais aussi du territoire et de la nature. Donc c'est une très belle expo que je peux vous recommander si vous êtes sur Londres. Et donc la deuxième exposition qui est un petit peu plus confidentielle, qui se déroule à la galerie Guilhem, donc le 8 rue du général Guilhem dans le Paris 11e, qui est du 19 au 24 mars, où là vous pouvez voir de l'artisanat avec les motifs Ainu, mais sur de l'étain. Et donc ça se passe avec en complément de la maison Wabi Sabi qui fait découvrir donc toutes ces poteries du printemps 2024. Donc voilà, si vous avez l'occasion de vous y rendre. Et donc sur ce, je pense qu'on a conclu cet épisode qui, je trouve, assez épique entre donc le Japon, l'Écosse, Dijon, Paris. C'était une chance incroyable d'avoir quelqu'un au Japon qui s'occupe en fait de la promotion de la culture Ainu et de l'avoir chez nous sur notre petit podcast. Donc on compte sur vous, faites tourner cet épisode et faites-nous exploser nos scores d'audience.
On espère que vous prendrez autant de plaisir que nous on a eu à enregistrer, à découvrir la culture. Et puis, bah voilà, il y a plein de contes, plein de choses à découvrir autour des Ainu. On espère que ça vous plaira. Et puis, on vous dit à très bientôt pour une prochaine destination.
À bientôt!